Sandra Fancello de m'avoir associé à cet hommage à Bruno Martini, dont j'étais l'étudiant en 2A en 1984-85, et dont j'ai été le collègue pour deux invitations que j'ai eues en 1998 et 1999. On s'est partagé les cours d'étrangers d'Afrique en licence et en maîtrise, et parmi nos étudiantes, il y avait Sarah Andrew, qui est une collègue aujourd'hui, et Sandra Fancello également dans la profession. Voilà, ma communication fait écho à un texte de Bruno Martinelli que j'ai modifié, si vous voulez, j'ai ajusté, sous le regard de l'ethnologue, les rapports sociaux d'apprentissage. Sous le regard de l'apprenti, un texte fondamental et bien connu que Bruno Martinelli avait consacré à l'ethnographie de l'apprentissage chez les forgerons Mosé du Yatenga au Burkina Faso. Mon approche à l'apprentissage a été différente mais complémentaire, je crois, de la sienne. Notamment au sein de l'équipe ANR SISAV, système de savoir et d'apprentissage, qu'il avait animé à ses débuts avec Pascal Monti, qui en parlait tout à l'heure. Je me suis plutôt intéressé aux rapports sociaux d'apprentissage, davantage que la transmission des savoirs au sens strict. D'autres collègues avaient d'autres compétences pour ça. Donc, de plus, mes enquêtes ont eu lieu chez des artisans et des apprentis exerçant les différentes spécialités artisanale au sein de l'économie dite informelle en milieu urbain au Sénégal, dans les villes de Saint-Louis et Dakar, en Côte d'Ivoire, Toumoubi et Abidjan, et à Lomé au Togo. J'essaierai donc ici d'esquisser un parallèle entre ce monde plutôt éloigné, de manière à mettre en lumière les changements profonds que l'artisanat et l'apprentissage, par conséquence, subissent, passant d'un système de production en symbiose avec une économie paysanne et linéagère, ce sont les recherches de Bruno, à un système d'économie informelle, urbaine, ce sont mes recherches, où dominent les rapports extra-familiaux et où la réparation prévaut sur la production, selon les exigences du marché et de l'économie urbaine. Dans la recherche de Bruno Martinelli en milieu rural mosé, ce qui ressort très nettement, c'est une transmission du savoir de la forge considérée comme une filiation, c'est son expression, qu'elle soit réellement ou pas. Être ou ne pas être né dans la forge, c'est à nouveau son expression, constitue d'ailleurs une différence d'un statut fondamental. L'acquisition du sens du métier, c'est encore Bruno, étant considérée comme héréditaire. Donc, seule l'appartenance ou la filiation de l'apprenti à un lignage de forgerons permettent cette acquisition. De plus, l'apprentissage idéal, je cite Bruno Martinelli, prolonge et renouvelle la gestation, il s'est fait matriciel. L'apprentissage de la forge s'accomplit par paliers, non seulement les trois désignés par Martinelli, à savoir l'apprentissage initial à la forge lignagère, de la durée canonique de 2 ans, le perfectionnement sous la forme d'un tour du pays qui peut durer des années au gré des situations, l'apprentissage final de la fonderie réservée à la catégorie la plus avancée des forgerons et qui intervient très tard et pas pour tous les forgerons. À ces macro-paliers indiqués par Martinelli, on pourrait ajouter des paliers internes à chaque stade de la production. Donc une progression dans la transmission des connaissances qui s'est faite de manière linéaire, par phase, sans saut, selon un ordre établi et qui commence, comme c'est souvent le cas en milieu rural, par le jeu des enfants. Tout le monde se souvient, je crois, de l'image des enfants qui vont jouer à la forge après que les forgerons ont quitté les lieux. Plus précisément, Bruno Martinelli parlait d'une modalité stratifiée d'acquisition du savoir, donc des paliers. Dans la forge, la production, en particulier la production d'outils agricoles, prévaut sur la réparation. Ceci implique que le respect des chaînes opératoires doit être absolu, rigoureux, que les séquences des gestes techniques sont obligées, contraintes. La chaîne opératoire nécessite en particulier de la présence obligatoire et constante des trois sujets, des trois éléments, les maîtres, des apprentis des niveaux différents. Les plus jeunes au soufflet et qui regardent, les plus avancés aux côtés du maître, étant ces derniers les seuls autorisés au travail de finition et à la fabrication des outils de la forge, tâche réservée aux plus expérimentés parmi les forgerons. Ces quelques traits essentiels nous aideront, je crois, à mieux comprendre les changements intervenus dans l'apprentissage en milieu urbain, où les caractères familial, gratuit et quasiment initiatique s'épèrent en faveur d'une marchandisation progressive du rapport entre maîtres d'apprentissage et jeunes apprentis, et où la linéarité des chaînes opératoires de la fabrication s'épère à l'avantage des interventions plus ponctuelles, limitées, restreintes, qui nécessitent la réparation d'objets de fabrication industrielle. Si l'on passe maintenant à l'artisanat en milieu urbain et à l'apprentissage qui s'y déroule, on s'aperçoit en effet que bien des choses ont changé au triple point de vue des savoirs techniques, de leur transmission aux apprentis et, troisième, de rapports sociaux qui lient les apprentis à leurs maîtres. À l'origine de ces changements, on trouve la domination que l'économie capitaliste fait gréver sur les activités artisanales, réduite pour la plupart à la simple réparation des produits des fabrications industrielles, ou bien à une petite production marchande, de plus en plus en difficulté face à la concurrence de la production industrielle d'importation et de bas de gamme. Dans ces contextes économiques et sociaux où l'informalisation prévaut à tous les niveaux, on peut constater à quel point l'artisanat et par conséquent l'apprentissage ont changé de contenu et de nature, laissant la place à des activités dégradées, appauvries, aussi bien au point de vue technique que social. Donc, reprenons les trois points de vue, le savoir technique, transmission et rapports sociaux. Tout d'abord, dans un artisanat déclassé la plupart du temps à simple activité de réparation, ou bien soumis aux aléas du marché, la confusion et le désordre dans les séquences des opérations techniques sont la norme et peuvent conditionner négativement l'apprentissage, abolissant ces paliers progressifs. Il peut y avoir des sauts, il peut y avoir des trous dans la formation. Les cycles de production complets, de la matière première au produit final, est remplacé par des interventions réduites, ponctuelles, partielles, parcellaires, des réparations ou d'assemblage des pièces. L'apprenti, comme le maître artisan, intervient à un niveau intermédiaire du processus technique, qui ne comprend que rarement la production dans son intégralité. Plus souvent, le savoir-faire technique intervient seulement dans la réparation ou dans l'assemblage des pièces préfabriquées, comme par exemple, on peut observer dans la petite production marchande des chaussures à Dakar, dans les quartiers de la Médina. Deuxièmement, l'apprentissage sur l'état, c'est-à-dire à l'intérieur d'un processus de travail, suivant le rythme ordinaire de la production de ses aléas, ne peut ne pas se ressentir du caractère irrégulier, peu constant et peu prévisible des commandes, qui portent d'ailleurs principalement sur la réparation d'objets fabriqués ailleurs. L'apprentissage peut en résulter incomplet, partiel, insuffisant et donc rallongé, en attente notamment que toutes les opérations techniques d'une spécialité artisanale ne soient demandées par la clientèle. La rétention du savoir, caractéristique courante de tout apprentissage, devient de plus une manière abusive de retenir les apprentis déjà formés, qui demeurent de manière variable, redevables leurs maîtres, pendant un temps qui a peu à voir avec les nécessités réelles de l'apprentissage. Il faut tenir compte aussi du fait que le choix d'une spécialité artisanale ne provient plus que rarement d'une connaissance directe et familiale du travail, ce qui pourrait en faciliter l'apprentissage, mais le laisser à la vocation de l'apprenti, qui n'a pas une tradition familiale derrière lui. La durée de l'apprentissage est donc étendue outre mesure, non seulement par le vouloir du maître, mais aussi à cause des limites, des obstacles, que les marchés mettent au bon déroulement d'une formation réellement complète et achevée. En troisième lieu, sur le plan des rapports sociaux, on est passé de la filiation au paternalisme, c'est-à-dire à un rapport de subordination extra-familiale, calqué sur les aspects autoritaires et hiérarchiques des rapports familiaux, dont il exclut toutefois les côtés solidaires et des partages des ressources. Donc, il y a un masque familial qui cache des rapports même d'exploitation dans certains cas. L'apprenti n'est plus ou n'est que très rarement un enfant du lignage du maître. Un rapport de nature contractuelle venant remplacer la filiation. Dans l'apprentissage urbain, plus personne n'est né au garage, ou dans l'atelier ou dans les laboratoires comme on pouvait être né dans la forge. Les changements concernent donc la nature du lien social qui, des familiales et communautaires, devient impersonnel et monétarisé. Globalement, par rapport à l'apprentissage rural et communautaire dont traite les textes de Bruno Martinelli, on peut constater dans les activités du secteur informel urbain le non-respect fondamental des paliers de formation et des chaînes opératoires. En effet, la plus grande subordination au marché brise la progression de ces paliers d'apprentissage et l'intégrité du métier de l'artisan créateur qui n'est plus entièrement maître de la chaîne opératoire. C'est l'unité du métier qui est brisée par une fragmentation des tâches et des gestes techniques qui sont désormais dominés par la partialisation des opérations requises. Que les exigences impératives du marché priment sur les échelons de la formation a pour conséquence que les apprentis n'apprennent plus l'ensemble des opérations techniques conduisant à la réalisation d'un objet, d'un produit fini. Les formations peuvent manquer de certains passages rendus inutiles par l'achat des produits semi-travaillés, simplement assemblés. Si l'artisan est dépossédé de son métier et n'est plus maître de son œuvre, encore moins le sera donc l'apprenti, avec des conséquences prévisibles dans la chaîne de transmission de savoir, comme la déperdition ou la simplification du savoir-faire. Dans sa figure idéale, l'artisan est un producteur direct et autonome, maître de ses moyens de production et de son œuvre. Mais il cesse de l'être lorsque son métier et son savoir-faire deviennent subordonnés au marché anonyme et à la production industrielle, dont il s'agit pour l'essentiel d'assurer l'entretien au moindre coût. L'artisan s'éloigne donc inéluctablement de l'artiste pour se rapprocher de l'ouvrier sans qualification, dont les compétences sont confisquées par les marchés sans pour autant pouvoir jouir des garanties de protection et des protections qu'un rapport salarial canonique devrait assurer. Il y a un autre aspect qui peut paraître seulement en apparence secondaire et qui confirme à mon sens l'appauvrissement certain, voire la dégradation de l'art de l'artisan dans les activités de production urbaine et qui est très hostile, une notion très chère à Bruno Martinelli, qui la situait, je cite, à la charnière de la technique et de l'esthétique. Le style donc. Il s'agit d'un détail concernant la fabrication des marmites en aluminium de récupération observées à Dakar dans les quartiers de Rebès. Ces marmites portent désormais en relief les initiales ou les noms des femmes qui en ont passé la commande et non pas un signe quelconque qui puisse identifier les fabricants. Cette cession de propriété symbolique sur l'objet atteste le déclin de la conscience matérielle de l'artisan, selon les termes de Richard Sen. Un artisan non plus auteur, mais simple exécuteur sur commande. Dans ces cas, celle que Bruno Martinelli appelle la propriété distinctive, constituée par la signature de l'artefact, passe du producteur au consommateur. L'œuvre, l'artefact, n'apporte plus une information sur son auteur, mais plutôt sur son utilisateur, la femme qui a passé la commande, dont le nom est gravé ou mis en relief sur la marmite. L'objet n'est plus reconnaissable comme porteur de la personnalité technique et du savoir-faire de son auteur, mais de son consommateur, de son utilisateur. Je voudrais maintenant revenir plus en détail sur les rapports sociaux qui président à l'apprentissage en milieu urbain et qui présentent une variété de situations allant schématiquement du don au tarif. De mes enquêtes en milieu urbain au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Togo, trois différents rapports d'apprentissage ressortent qui ont en commun la subordination sociale extra-familiale de l'apprenti à son maître, qu'elle soit sanctionnée ou non par un contrat écrit et par le paiement d'une redevance. Alors, les trois systèmes d'apprentissage identifiés se situent sur une échelle qui va de la forme gratuite au Sénégal, et plus généralement dans les pays sahéliens à plus forte tradition artisanale, à la forme payante, sans contrat, en Côte d'Ivoire, jusqu'à une tentative de formalisation du rapport d'apprentissage que l'on retrouve au Togo. Ici, à Lomé notamment, non seulement les apprentis payent pour leur formation, comme c'est le cas en Côte d'Ivoire, Mais de plus, l'entrée en apprentissage est sanctionnée par la souscription d'un contrat écrit et par un paiement précisément établi d'après un système tarifaire décidé par la Chambre des métiers de la ville. Donc, au Sénégal, l'apprentissage est gratuit pour les jeunes gens venant se former à un métier. Seul prix à payer, si l'on peut ainsi dire, leur travail gratuit, exercé au sein de l'entreprise et éventuellement, enfin systématiquement plutôt, la prolongation parfois anormale de la durée de la formation. C'est le bénéfice du maître, cette prolongation. Seul le maître pouvant décider de la libération. Il s'agit donc d'un apprentissage encore proche de l'esprit de l'artisanat des traditions rurales, familiales, communautaires, voire des castes, où les rapports sociaux sont inspirés des formes statutaires anciennes et non pas médiatisées par l'argent. L'absence de tout contrat écrit renvoie un rapport basé sur la parole donnée et la confiance réciproque. En revanche, en Côte d'Ivoire, les apprentis ou leurs familles payent systématiquement pour apprendre un métier. Les artisans patrons sont rémunérés par mois, ou bien au début ou à la fin de la période de formation, les paiements monétaires étant assortis des cadeaux en nature, des boissons, d'animaux, etc. Les apprentis ne reçoivent pas pour autant un salaire, mais peuvent recevoir tout au plus la nourriture au lieu d'apprentissage. Seulement, lorsqu'ils deviennent productifs, certains d'entre eux peuvent recevoir des petites sommes d'argent occasionnelles. La durée d'apprentissage est normalement établie à l'avance, mais il connaît une prolongation systématique, la libération de l'apprenti étant une prérogative exclusive du maître. Au Togo, le système du paiement de la part des apprentis s'accompagne d'un contrat écrit, d'un examen probatoire à la fin et d'un diplôme en fin de formation. Les frais d'apprentissage sont précisément établis par la Chambre des métiers et varient en fonction des spécialités apprises et de la durée de la formation. Cette tentative d'officialisation du rapport d'apprentissage, justifiée afin de combattre des abus, des dérives constatées, se révèle en réalité un obstacle à l'entrée en formation, ça décourage les jeunes et c'est la cause des entorses aux règles et le prolongement abusif de la durée d'apprentissage tant que la dette n'est pas épongée. Au Togo, comme en Côte d'Ivoire, c'est le caractère non familial et non communautaire de l'apprentissage qui justifie ces paiements, avec ou sans contrat écrit, nécessaire à établir un rapport nouveau entre inconnus basé sur un échange profane où l'argent impersonnel tient le rôle principal. Ces changements dans les rapports sociaux attestent dans l'ensemble d'un glissement de la reconnaissance à la redevance, de la dette filiale à la dette monétaire, du don au tarif. Plus en détail, ces trois cas pris en examen nous présentent un éventail de situations qui se distinguent aussi bien sous l'angle économique que sous celui des rapports sociaux impliqués. On passe ainsi d'une économie morale au Sénégal à la marchandisation partielle des processus d'apprentissage en Côte d'Ivoire pour aboutir au Togo à une économie idéalement contractuelle où les rapports d'apprentissage seraient, du moins en théorie, formalisés par le biais d'un contrat écrit, des tarifs précisément établis, d'un diplôme obtenu à l'issue de la formation et après un examen. Du temps assorti d'un contre-don, le travail gratuit de l'apprenti, qui s'inscrit dans une logique d'éthique communautaire, on glisse donc vers un échange marchand dans lequel l'accès au savoir-faire implique non plus seulement une contrepartie en travail non rémunéré, mais aussi le paiement d'une véritable redevance monétaire. Dans les systèmes sénégalais et sahéliens, c'est les modèles normatifs des rapports familiaux et des NECADE, en particulier avec une part de clientélisme qui prévaut. Ici, le maître d'apprentissage se comporte comme un père exigeant et sévère, mais aussi comme un père nourricier, pourvoyeur d'un savoir-faire nécessaire à l'avenir des plus jeunes. En revanche, dans les pays côtiers, comme le Togo, la Côte d'Ivoire, mais aussi le Ghana, le Nigeria, le Bénin, les rapports sociaux sont davantage impersonnels, contractuels, ce qui donne lieu à la valorisation et au paiement en espèces de la formation délivrée par les artisans à leurs apprentis. Dans le premier cas, l'apprenti se trouve dans une condition de dette permanente vis-à-vis de son maître d'apprentissage, auquel il ne rendra jamais l'équivalent de ce qu'il a reçu. c'est le modèle sahélien d'une dette filiale. Ce modèle reproduit celui de la communauté domestique où les cadets n'épongent jamais leurs dettes vis-à-vis des aînés, mais seront appelés à reproduire les dons reçus en faveur des générations à venir. Ce système reprend d'ailleurs les cycles des avances et restitutions qui marquent en profondeur l'économie communautaire et paysanne, basée sur la relève des générations et sur la circulation gratuite des ressources et des savoirs, et où le prix à payer est la subordination sociale et l'obéissance due aux aînés. Dans les cas ivoiriens et togolais, de manière quelque peu différenciée, le rapport marchand et contractuel qui s'instaure entre les partenaires perd son esprit familial et corporatif voué à la reproduction et se rapproche davantage d'un rapport d'échange anonyme dominé par l'argent, sans pour autant atteindre la forme des rapports capitalistes fondés sur l'échange formellement libre et pourtant inégal du travail contre un salaire. Les ambiguïtés qui marquent les situations dans lesquelles l'apprentissage devient payant sont pourtant nombreuses. Il s'agit en effet toujours des contextes voués à la transmission des savoirs et non pas au travail reconnu et rémunéré. Cela limite les pleins développements des rapports interpersonnels et marchands, comme le serait un rapport salarial pleinement déployé. Au contraire, dans ces situations ambiguës, l'apprenti demeure socialement l'enfant de son patron, de son maître, un cadet, ce qui implique le déploiement de tout l'arsenal conceptuel et rhétorique du paternalisme et des rapports de dépendance personnelle. Ainsi, les maîtres formateurs ne considèrent pas qu'il a embauché un travailleur productif, mais plutôt un jeune désiré d'apprendre un métier, et qui est censé être plutôt une charge qu'un soutien. Cet aspect justifie largement les paiements de la part de sa famille pour la formation reçue. Les maîtres se plaignent que les apprentis ne leur apportent rien, les font perdre du temps. Dans tous les cas analysés, quel artisan fasse don de son savoir-faire au nom d'un esprit solidaire, corporatif, communautaire, ou qu'il soit payé, la contribution de l'apprenti à la bonne marche de l'entreprise est toujours considérée comme étant à peine en mesure de compenser l'effort du maître d'apprentissage. Car le travail des apprentis n'est nullement valorisé, tant au plan social qu'au plan technique ou économique. Rien n'est dû à l'apprenti. Tout geste concret, comme la nourriture ou quelques pourboires, est strictement lié à la générosité du maître ou éventuellement des clients. Cela revient à dire que le travail fourni pendant des années d'apprentissage, voire pendant les périodes de prolongation, qu'on appelle l'aumône, le remerciement, n'existe pas. Le travail n'existe pas, sinon comme exercice de l'apprenti pour lui-même, pour son propre bénéfice. Donc il y a là un renversement du sens du bénéfice de ce travail qui reviendrait au seul apprenti, dans la mesure où cela lui permet de compléter son expérience, parfois de se constituer une clientèle et les bases pour un avenir. L'apprenti ne travaille pas, l'apprenti aide tout au plus. Donc il y a une négation de son rôle productif. Je saute quelques passages peut-être, je vais parler 13 minutes. Non, 5 minutes. Alors, la non-reconnaissance, le travail des apprentis donc est par définition gratuit, même lorsqu'ils peuvent recevoir quelques pourboires ou lorsqu'ils se dotent de ce qu'on appelle la débrouille, donc ils font des travaux en cachette. Et là, ce qu'on peut remarquer dans ces pratiques clandestines des petits travaux exécutés à leur compte, à l'insu de maîtres, on remarque une quête de reconnaissance qui anime les apprentis. Au double sens, il y a une quête de reconnaissance technique, matérielle, parce qu'ils savent faire des productions, des réparations, et une quête de reconnaissance, de valorisation de leur rapport productif. Sauf que cette reconnaissance est niée, donc c'est une double non-reconnaissance au plan social et technique, et qui mène d'ailleurs les apprentis à rompre les pactes de confiance, à faire des travaux en cachette, ce qui mine aussi les rapports. Les maîtres artisans savent parfaitement, ils ont été apprentis à leur tour, donc savent très bien comment est-ce qu'on peut être apprenti sans salaire, mais c'est ce jeu qui culpabilise les apprentis parce qu'ils ont fait des travaux en cachette, donc ils ont un peu honte, ils ne veulent pas se faire découvrir. et ils s'inscrivent dans un rapport ambigu qui les retient davantage, parce que c'est pas un affranchissement travailler en cachette, avoir honte de ce qu'on a fait, avoir peur d'être découvert. Ça lie l'apprenti à nouveau dans un rapport ambigu à son maître, et la dette augmente de cette manière. C'est pas du tout un affranchissement. Donc le travail de l'apprenti est au final une obligation, une affectation sociale et statutaire décadée, sans droit ni besoin. Il y a aussi le fait que l'apprenti est considéré quelqu'un qui n'a pas des besoins, parce qu'il y a une famille qui pourvoit lui, même si l'apprenti est âgé. Il y a des apprentis qui prolongent, et on trouve des apprentis, c'est pas les enfants, hein, je l'ai pas dit, mais l'âge moyen est assez élevé, et on a des apprentis de 25 ans qui sont pères de famille ou qui aspirent à le devenir, ou mères de famille. Là, je traite surtout l'univers masculin de l'apprentissage, ce serait trop long de rentrer dans ces détails. Donc, le travail d'apprenti est une obligation, une affectation sociale liée au statut des cadets, sans droit ni besoin. Il n'y a aucune comptabilité, il n'y a aucune évaluation de l'apport productif des apprentis, dont la position sociale est par définition subordonnée. L'apprenti est tenu à l'obéissance, à la discipline, à la suggestion envers les maîtres qui en charge sa formation, qui double en quelque sorte l'obéissance, le respect, la subordination qu'il a par rapport à la famille. À sa position doublement subordonnée au plan technique et social correspond à un travail tout aussi subordonné, incomplet, imparfait, non reconnu, donc non rémunéré, légitimement non rémunéré, parce qu'il est non reconnu, un travail éducatif au sens strict qui implique la complète disponibilité de l'apprenti. Même en dehors de l'atelier, l'apprenti peut être employé à la maison par son maître. Donc, selon les termes de Richard Sen, est encore à l'autorité légitime du patron correspond la dignité de l'obéissance due par l'apprenti. Un rapport asymétrique qui établit les cadres sociaux à l'intérieur duquel prend forme la négation du travail des jeunes apprentis. De plus, ce qui est méconnu est non seulement la contribution productive et matérielle de l'apprenti, mais aussi son intelligence appliquée à un apprentissage actif et éventuellement avec des capacités d'innovation, ce que les maîtres d'apprentissage n'aiment pas du tout. Donc, je conclue, le travail dû par les apprentis répond à une obligation de nature sociale et morale, donc foncièrement extra-économique, fondée à son tour sur la dette intrinsèque au rapport d'apprentissage. Cela explique et justifie l'absence de toute comptabilité du temps du travail et de l'effort dépensé par l'apprenti, comme cela s'est passé dans les travaux prestataires et obligatoires des catégories enseignement asservi, ne produisant pas des valeurs mesurables. Ainsi, les travaux gratuits résultent de la conjonction réussie entre une tradition de dépendance personnelle décadée par rapport aux aînés et les impératifs modernes, entre guillemets, du marché qui poussent à la contraction maximale des coûts du travail. Finalement, la dette de l'apprenti est en partie seulement acquittée par le versement des cotisations régulières ou par leur état des suggestions permanentes. En aucun cas, le travail exécuté par les apprentis ne rentre dans les comptes, demeurant ainsi tout à fait invisible. Dans tous ces systèmes d'apprentissage, et là, les systèmes se recoupent, il y a une différence. Diminuent, voire disparaissent. Dans tous ces systèmes d'apprentissage, toute notion autonome générale et abstraite de travail qui pourrait permettre de délimiter une sphère distincte de la vie sociale ayant ses règles spécifiques, hein, les mondes du travail, est absente. Ici, dans cet univers de l'apprentissage, toute activité accomplie est affectée au statut social de l'apprenti qui n'est jamais le statut d'un travailleur. Voilà, merci.
Merci. Donc il y a eu des... On va poser des...